Décryptage.
Anne Cantner.
La tension monte chaque jour un peu plus aux États-Unis où le président est menacé de destitution par l'opposition démocrate. Le motif de cette très rare procédure d'impeachment, ce que l'on appelle l'affaire ukrainienne, un échange téléphonique entre Donald Trump et son homologue ukrainien, durant lequel il demande à Volodymyr Zelensky d'enquêter sur son rival politique Joe Biden. Un abus de pouvoir, selon les démocrates, en vue d'influencer le cours de la campagne pour la présidentielle de 2020. Donald Trump, lui, parle de chasse aux sorcières. Alors que peut donner cette procédure? En quoi consiste cette affaire ukrainienne? Et que risque le président américain? Bienvenue dans Décryptage. Pour en parler, nous recevons ce soir Anastasia Shaposhkina. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes maître de conférences en géopolitique à Sciences Po. Vous êtes aussi particulièrement désigné pour évoquer le sujet qui nous occupe aujourd'hui parce que vous êtes d'origine ukrainienne et que vous disposez aujourd'hui de la citoyenneté américaine. Merci d'être avec nous. Également avec nous par téléphone, Françoise Coste, professeur à l'Université de Toulouse, spécialiste de la politique intérieure des États-Unis. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors cette affaire est assez compliquée et pour la comprendre, il faut revenir sur ce fameux échange téléphonique entre les présidents américains et ukrainiens, une discussion que la Maison-Blanche a tout fait depuis pour garder secrète. C'était le 25 juillet dernier. D'après le compte-rendu qui a été rendu public par la Maison-Blanche, le ton est plutôt agréable. Donald Trump félicite son homologue pour son élection, lequel le flatte à plusieurs reprises et remercie les États-Unis pour leur aide militaire. Mais ça n'est pas tout, puisque le président américain aborde un autre sujet. Il demande à Volodymyr Zelensky de se renseigner sur le fils de Joe Biden. Joe Biden, ancien vice-président de Barack Obama et surtout candidat à la primaire démocrate pour la présidentielle qui est prévue l'année prochaine aux États-Unis. Le président américain va plus loin, donc, puisqu'il explique à son homologue ukrainien qu'il va même demander à son avocat et au ministre de la Justice d'appeler le président ukrainien. Alors, ce qui interpelle, c'est que, avant d'évoquer Joe Biden et son fils, les deux présidents parlent de l'aide militaire que les États-Unis fournissent à l'Ukraine. Et il y a un autre élément qui est assez étonnant dans cette affaire, c'est que Donald Trump avait suspendu le versement de presque 400 millions de dollars d'aide quelques jours avant cet appel. Est-ce qu'on sait pourquoi, Anastasia Shaposhkina?
Non, on ne sait pas pourquoi l'aide a été suspendue. Et effectivement, les liaisons entre la suspension de l'aide et les conditions, les demandes de faveur dans l'appel, sera compliquée à établir. On peut dire qu'il y avait une relation temporaire, mais il n'y avait peut-être pas de relation causale. Donc ça, ce sera vraiment une chose qui sera le plus dure à prouver.
Alors, l'argument des démocrates, c'est de dire que même si Donald Trump ne menace pas directement de suspendre son aide, eh bien la puissance des États-Unis est telle que la menace est quasiment implicite. Quand le président américain demande un service, on ne peut pas vraiment dire non, Françoise Coste.
Bien entendu, surtout que l'Ukraine est dans une situation délicate et qu'elle a besoin de toute l'aide qu'elle peut trouver, en particulier du côté américain. Et pour les démocrates, le problème, c'est que cette sorte de chantage plus ou moins explicite que Trump fait au téléphone, il n'a pas le droit de le faire parce que cet argent, c'est près de 400 millions, comme vous avez dit. Cet argent, il a été voté par le Congrès. C'est la prérogative de la branche législative aux États-Unis d'avoir voté cet argent et d'avoir dit cet argent, on va l'utiliser pour X ou Y. Et là, le problème, c'est que le président met la main sur ce versement. Il n'en a pas le droit. Et en plus, il le fait non pas pour avancer l'intérêt national des États-Unis, la sécurité des États-Unis ou les intérêts militaires des États-Unis. Non, non, non. Il le fait pour son propre intérêt personnel, son propre intérêt politicien, qui est la préparation d'une éventuelle campagne contre Joe Biden l'année prochaine. Donc là, ce mélange des genres, utiliser les ressources budgétaires votées par le Congrès, utiliser le prestige international des États-Unis pour sa propre campagne, ça c'est un mélange des genres qui est inacceptable pour les démocrates.
Alors, ce que demande le président américain à son homologue ukrainien, c'est donc de se renseigner sur le fils de Joe Biden. Il évoque une affaire de corruption. Alors, la théorie n'est pas nouvelle parce que ça fait des mois que l'avocat de Donald Trump, Rudy Giuliani, qui est aussi ancien maire de New York, multiplie les déclarations à ce sujet. La théorie selon laquelle Joe Biden aurait fait pression lorsqu'il était vice-président pour obtenir la mise à l'écart d'un procureur à Kiev, et ce, pour protéger son fils. Anastasia Shaposhkina, que faisait le fils Biden Hunter Biden en Ukraine. Pour qui travaillait-il?
Hunter Biden a été embauché par une entreprise qui s'appelle Burisma. L'entreprise Burisma, c'est une deuxième plus grande entreprise privée en Ukraine pour l'exploration du pétrole et du gaz. Sachant que c'est le gouvernement, donc c'est l'État, qui est le premier, le plus grand explorateur du pétrole et du gaz en Ukraine. Et que les ressources ne sont pas énormes, pas du tout comparables avec la Russie ou autres grands explorateurs. Mais tout étant que Burisma a été fondée en 2002 par un des très riches, donc on peut dire oligarque ukrainien, donc Mykola Zlochevsky, qui entre 2010 et 2012 a tenu le poste de ministre de l'écologie et des ressources naturelles.
Donc un certain conflit d'intérêts, on pourrait dire.
Complètement, parce que du coup, c'est cette personne-là, ce poste-là, qui a donné les licences de l'exploration des champs pétrogaziers.
Et il y en a eu de plus en plus au moment justement où il était ministre, enfin où il était au ministère.
Autrement dit, il était jugé parti, il s'est fait ses propres licences. D'où ensuite entre 2012 et 2014, il faisait partie du conseil de sécurité du président de l'Ukraine. À ce moment-là, c'était Yanukovych, donc le président qui a dû fuir l'Ukraine suite aux événements de Maïdan 2013-2014. Et c'est pendant cette période-là, donc 2013-2014, quand Joe Biden a été nommé par président Barack Obama une des personnes responsables pour suivi de tout ce qui se passe en Ukraine. Donc la politique là-bas. Et c'est pendant cette période-là, donc fin 2013, que Hunter Biden a été embauché par l'entreprise Burisma pour être sur le board de directeur de Burisma. Il a servi sur ce board, a priori, entre 2013-2014. Donc, juste pendant la période quand son père a suivi donc, l'Ukraine.
Alors, vous le disiez, il y a des soupçons assez forts de corruption concernant cette entreprise et son chef. Il y a effectivement eu des pressions pour faire partir le procureur général qui était à l'époque en poste à Kiev. Mais ces pressions ne venaient pas seulement du vice-président américain Joe Biden, puisque le FMI, l'Union européenne et la société civile ukrainienne avaient également demandé aux autorités d'écarter ce procureur, pas pour protéger le fils Biden, mais parce qu'il était lui-même accusé de corruption.
C'était bien évidemment tout ce qui était les gens qui ont entouré l'ancien président avant les événements de Maïdan, donc Yanukovych, ils ont été tous mis en examen durant la présidence du nouveau président, donc Poroshenko. Quand Poroshenko est venu, un de ses slogans, c'était la campagne anticorruption. Et là, bien sûr, tout ce qui est le système judiciaire, ça fait d'abord partie de cet examen. Et là, la communauté internationale était derrière. Contre la société Burisma, en particulier quand même, parce qu'il y avait même les accusations de la corruption et les conflits d'intérêts assez évidentes. Il y avait donc deux cas judiciaires qui ont été lancés, deux enquêtes. Un, c'était contre le fondateur, Zlochevsky, de Burisma, contre donc l'enrichissement personnel étant dans le service public, donc pendant qu'il était ministre. Et deuxième cas, c'était contre l'issue des licences illégales. Lui-même, Zlochevsky, a dû quitter le pays en 2014 à cause de ces accusations, comme beaucoup, beaucoup de gens autour de Yanukovych ont dû quitter le pays. Et par contre, en juin 2000, donc tous les deux cas ont été complètement démontés. Et il a pu donc revenir en 2018. Par contre, en surprise, encore une fois en 2018, le cours de la ville de Kiev a rouvert l'affaire, donc en juin 2018, a rouvert l'affaire, donc annulé la décision précédente, et a rouvert l'affaire sur les licences illégales.
Donc si je comprends bien, il y a en ce moment encore une enquête qui vise cette entreprise. Alors, même s'il s'agit d'un cas de corruption locale, si je comprends bien ce que vous dites, le mélange des genres est quand même un peu étonnant. Joe Biden, vice-président et en charge du dossier ukrainien pour les États-Unis, au moment où son fils occupe un poste à haute responsabilité dans la principale entreprise gazière du pays, enfin la seconde après l'État, Françoise Coste, est-ce que cela peut nuire à Joe Biden qui est en ce moment en campagne pour être le candidat démocrate à la présidentielle de 2020?
C'est le grand espoir de des défenseurs de Trump et de la contre-attaque des républicains, c'est que malgré le coup de fil inapproprié, en dessous de ce coup de fil, il y a un vrai scandale potentiel. Donc c'est ce que les républicains espèrent. Les démocrates, de leur côté, disent que non, Joe Biden est faisait justement partie de ce mouvement international pour dénoncer la corruption en Ukraine, donc il est au-dessus de tout soupçon. Mais de toute façon, ça tombe plutôt mal pour Joe Biden parce que jusqu'à présent, il était vraiment en tête dans les sondages. Et depuis quelque temps, il voit des adversaires le rattraper, en particulier Elizabeth Warren. Donc, dès la semaine dernière, avant toute cette histoire, dans certains sondages, Warren était passé devant lui, où il était à égalité avec Bernie Sanders. Donc, ça arrive dans une période de flottement pour Joe Biden, c'est vrai.
Dans une période qui est déjà un petit peu délicate pour lui. Alors Donald Trump, de son côté, a réagi pour l'instant en mettant en cause le lanceur d'alerte. Il a dénoncé une chasse aux sorcières. Il s'en est pris également donc à ce lanceur d'alerte, celui qui a interpellé la direction du service de renseignement à propos de ce fameux échange téléphonique entre les deux présidents. Et Donald Trump ne mâche pas ses mots.
En gros, cette personne n'a jamais vu le rapport, c'est pratiquement un espion. Je veux savoir qui a donné les informations aux lanceurs d'alerte parce que ça s'apparente à de l'espionnage. Vous savez ce que nous faisions aux espions au bon vieux temps, lorsque nous étions intelligents, n'est-ce pas? Les espions, les traîtres, nous avions l'habitude de gérer ça un peu différemment de ce que nous faisons aujourd'hui.
Le président américain qui a donc choisi de contre-attaquer assez durement, puisque dans l'extrait que l'on vient d'entendre, dans ses propos qui ont été tenus au cours d'une réunion à huis clos il y a quelques jours, il fait directement allusion à la peine de mort. Anastasia Shaposhkina, en quoi consiste la procédure d'impeachment qui le vise ?
La procédure d'impeachment, c'est une procédure qui, où la Chambre des représentants a le droit de l'initiative. Donc, c'est la Chambre des représentants qui initie la procédure. Ensuite, la procédure ressemble, donc il passe par différentes instances, elle ressemble quand même le chemin d'une procédure légale, où ensuite elle arrive en trial, donc en procès, dans le Sénat. Et c'est le Sénat qui établit les règles du procès et qui mène le procès même. Et où donc on peut dire, on peut comparer la Chambre des représentants, un procureur et les sénateurs au jury qui va donc décider ensuite le destin du président. Où un par un, ils doivent sortir et dire oui ou non.
D'accord. Alors il a été question de cette procédure de destitution à plusieurs reprises déjà ces derniers mois aux États-Unis. Mais jusqu'à présent, la présidente de la Chambre des représentants, la démocrate Nancy Pelosi, avait toujours refusé. Françoise Coste, pourquoi est-ce que cette fois-ci, elle a dit oui à l'aile plutôt gauche de son parti?
Vous avez raison, c'est un retournement très inattendu et surtout très très rapide. Alors il semble que ce qui a vraiment débloqué la situation, c'est le fait qu'il y a deux week-ends de cela, quand la presse a commencé à beaucoup parler de ce lanceur d'alerte, un groupe d'élus de la Chambre des représentants, des démocrates vus plutôt comme des modérés, et surtout des démocrates qui avaient été élus dans des circonscriptions, lors des midterms de 2018, des circonscriptions qui avaient voté pour Trump en 2016 lors des présidentielles.
Ce qu'on appelle les swing states, donc qui peuvent basculer plus facilement d'un parti à l'autre.
Voilà, donc c'était des démocrates considérés plutôt comme, pas fragilisés, mais dont l'élection n'était pas assurée pour l'année prochaine. Donc Nancy Pelosi disait, il faut que je protège ces modérés, ce qui viennent de ces circonscriptions qui ont été trumpiennes. Et quand ces démocrates-là ont publié, je crois, dans le Washington Post, donc il y a deux week-ends, une tribune pour dire on prend le risque, mais la situation est trop grave pour laisser passer ça. Tant pis si on y perd notre réélection aux législatives de 2020. C'est vraiment la goutte d'eau qui a permis à Nancy Pelosi de suivre ses troupes et donc d'accepter de lancer cette procédure. Je dois dire aussi que l'ampleur du revirement semble aussi indiquer que en interne, et c'est entre les lignes dans le rapport du lanceur d'alerte, le problème va au-delà de l'Ukraine et de cette discussion au téléphone avec le président ukrainien, puisque le lanceur d'alerte dit que cette il y a eu beaucoup de conversations délicates au téléphone de Trump avec des leaders étrangers, donc dans ce cas avec le leader ukrainien, mais pas que. Et chaque fois que des choses problématiques se sont dites, on ne sait pas lesquelles, mais chaque fois que des choses problématiques se sont dites, en particulier, dit le lanceur d'alerte, avec le président, avec Poutine, ou avec Xi Jinping en Chine, ou avec MBS en Arabie Saoudite, c'est les notes, les retranscriptions écrites de ces conversations téléphoniques n'ont pas été classées, comme c'est le cas habituellement, dans les dépêches diplomatiques que la Maison Blanche distribue tous les jours à tous les responsables du gouvernement, mais elles ont été mises, cachées quelque part, dans un serveur de la Maison Blanche auquel très peu de personnes ont accès.
Donc il y aurait eu une volonté de maintenir un certain nombre de discussions avec des dirigeants étrangers secrètes et qui évidemment fait se poser beaucoup de questions sur la répétition éventuellement du genre de phénomène qu'on a pu observer lors de ce coup de téléphone là.
Le sommet de l'iceberg. Ce n'est peut-être que le sommet de l'iceberg. Il y a peut-être d'autres conversations compromettantes avec des leaders. Sans vouloir offenser les Ukrainiens, encore plus important que l'Ukraine pour la politique étrangère des États-Unis.
Alors c'est en tout cas effectivement ce qui ressort de la plainte du lanceur d'alerte. Le lanceur d'alerte qui a reçu un soutien quand même assez important il y a quelques jours, pas sur le fond de l'affaire, mais en tout cas sur la méthode. Écoutez, ça s'est passé jeudi dernier devant la commission du renseignement américain. Le président de cette commission, un élu démocrate, interroge le directeur par intérim du renseignement national.
Vous n'avez pas de raison de croire qu'il ou qu'elle ait pu trahir notre pays ou soit lié à un autre pays ?
Absolument pas. Je pense que le lanceur d'alerte a respecté toutes les étapes de la procédure. Je pense que le lanceur a fait ce qu'il fallait.
Voilà le directeur par intérim du renseignement national qui considère donc, qui affirme que le lanceur d'alerte a fait ce qu'il fallait faire. La commission du renseignement va maintenant essayer de l'entendre. D'ailleurs, je précise que ce lanceur d'alerte a été placé sous protection après avoir reçu des menaces de mort. Anastasia Shaposhkina, pensez-vous que la procédure pourra se poursuivre en maintenant son anonymat ou bien est-ce qu'il faudra à un moment qu'il ou elle se dévoile ?
Il y avait une discussion la semaine dernière où le lanceur de l'alerte a dit qu'il peut témoigner devant le Sénat et le Sénat a dit qu'ils peuvent, les représentants, les besoins des représentants aussi, qui ont dit qu'ils peuvent demander un témoignage. Donc on a même entendu un témoignage peut-être jeudi dernier, mais ça s'est pas passé, peut-être parce qu'il y avait des menaces de mort ou autre chose. Mais en tout cas, ça c'est quelque chose qui peut faire un procès, une partie de l'investigation dans le cadre de impeachment. Et ensuite, une autre chose qui peut faire partie de l'investigation, c'est aussi l'invitation de tous ces partis, de toute cette partie prenante en Ukraine, aussi pour témoigner.
Ça, c'est effectivement envisageable également. Françoise Coste, pensez-vous que cette procédure d'impeachment puisse être terminée avant les primaires pour la présidentielle qui doivent commencer en février prochain ?
C'est l'espoir des démocrates qui disent que si on s'en tient à l'affaire ukrainienne, donc sans élargir l'enquête aux autres pays que j'ai mentionnés, comme l'Arabie Saoudite ou la Russie, leur espoir c'est de finir avant l'année, avant Noël, quoi. Sauf que, de toute façon, même si eux finissent, c'est-à-dire si l'enquête se termine et qu'il y a un vote à la Chambre des représentants pour lancer la mise en destitution de Trump, la seconde étape, comme l'a expliqué votre interlocutrice, bascule au Sénat. Et là, par contre, au Sénat, pour que le procès se passe et que Trump soit potentiellement là pour le coup vraiment destitué, il faut un vote des deux tiers, 67 sénateurs. Aujourd'hui, les démocrates n'en sont qu'à 47 ou 48. C'est-à-dire qu'il faudrait une vingtaine de républicains qui décident de basculer pour rejoindre les démocrates contre Trump. Ça, il y a vraiment très peu de chances au jour d'aujourd'hui, vu ce que l'on sait que ça se passe.
Donc ça, c'est beaucoup plus incertain. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir participé à cette émission. Françoise Coste, professeure à l'Université de Toulouse, et Anastasia Shaposhkina, maître de conférence à Sciences Po. Très bonne soirée à tous et à demain.